Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, Merci Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Morgane Danan. Toute cette semaine dans Culture Monde, nous allons braver les épidémies. Mardi, nous irons en Afrique pour parler de l'épidémie de sida VIH. Mercredi, ce sera les États-Unis avec les victimes de la crise des opioïdes. Enfin, jeudi, nous parlerons de la recrudescence du choléra. Mais tout de suite, nous allons disséquer un mouvement qui contamine la planète, celui des anti-vaccins.
Juste avant sa grossesse, ma femme a lu beaucoup de témoignages disant que l'autisme était causé par les vaccins.
We do have the tools to prevent measles.
On a les outils pour éviter la rougeole.
The level of misinformation,
le niveau de désinformation, le monde dans lequel nous vivons menace nos succès en santé.
Qu'est-ce qui leur donne le droit de nous dire qu'on doit injecter du poison à nos enfants? Ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas choisi de les porter, ces bébés. Ce n'est pas eux qui ont choisi de leur donner la vie.
Si les taux de vaccination étaient plus élevés, ce qui est sûr, efficace et pas cher, on ne devrait pas avoir de rougeole. On n'aurait pas à détourner des ressources dont on a besoin ailleurs pour combattre une maladie qu'on aurait dû éliminer il y a longtemps.
Entre 2017 et 2018, le nombre de cas de rougeole a pratiquement doublé sur la planète. Une situation qui inquiète les organisations internationales comme l'UNICEF ou l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui le mois dernier a tiré la sonnette d'alarme. États-Unis, Ukraine, Philippines, Brésil, Israël, Géorgie, Italie, la liste est longue des pays où cette maladie est en recrudescence. Et pourtant, la plupart sont des pays dits développés, où l'accès aux vaccins sûrs, efficaces et peu coûteux n'est plus un problème, sauf que précisément, ce vaccin inquiète. Accusé de provoquer l'autisme, ou des maladies auto-immunes, d'être contre nature, les mouvements de défiance et de scepticisme face aux vaccins se propagent. De l'Europe aux États-Unis en passant par le Pakistan, qui sont les personnes qui véhiculent ces rumeurs maintes fois réfutées? Quels sont leurs arguments? Comment réconcilier le monde scientifique et le grand public pour éviter les épidémies? Les États doivent-ils obliger la vaccination ou convaincre les populations au risque d'accroître la méfiance? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, avec moi ici en plateau à Paris, Lucie Guimier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, auteur d'une thèse sur les enjeux du refus vaccinal. Et puis avec nous en duplex de Dijon, François Salvadori, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en immunologie, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et co-auteur avec Laurent-Henri Vigneault de Antivax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours, qui était paru aux éditions Vendémiaire, qui vient de paraître. Alors je vais commencer avec vous, tiens, Françoise Salvadori. Le 14 février dernier, l'Organisation mondiale de la santé lance un cri d'alarme en indiquant qu'à la mi-janvier, près de 229 000 cas de rougeole avaient été détectés dans le monde en 2018, contre environ 170 000 pour l'année 2017. Donc on voit un peu cette recrudescence très importante quand même. Que vous inspire-t-elle justement cette recrudescence? Et jusqu'où est-ce qu'on peut corréler l'augmentation de cas de rougeole au refus des populations de se faire vacciner? Parce qu'après tout, il peut y avoir plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, François Salvadori.
Oui, alors pour la rougeole, il n'y a pas tant que ça de facteurs, parce que finalement, l'OMS estime sur des chiffres tout à fait fiables que la mortalité de la rougeole a diminué de 84% entre 2000 et 2016. Mmh. Avec des chiffres pareils, en fait, on a à peu près évité 20 millions de morts. Alors, il faut savoir que la rougeole est surtout grave dans les pays, est particulièrement grave dans les pays pauvres, quand elle se conjugue avec malnutrition, mauvais état, absence d'antibiotiques, pas d'hôpital sur place, etc. Mais de toute façon, cette maladie était tout près d'être éradiquée. Elle a même été déclarée éradiquée sur certains continents pour l'OMS. Mmh. Et ce n'est pas l'hygiène qui peut. Personne ne peut dire qu'avec l'amélioration de l'hygiène, on va se débarrasser de cette maladie. C'est pas un problème d'hygiène. Il n'y a que la vaccination. Et à chaque fois que la vaccination baisse, la maladie remonte.
Oui, Lucie Guimier, c'est intéressant parce que la rougeole, c'est une maladie qui est particulièrement contagieuse. Et si un enfant n'a pas été vacciné contre la rougeole, a priori, il y a de très fortes chances pour qu'il n'ait reçu aucun vaccin. Donc en fond, la rougeole, c'est une sorte de baromètre anti-vaccin, hein, Lucie Guimier.
Oui, bien sûr. Je pense que la rougeole peut être vue comme un baromètre de la confiance des populations envers leur gouvernement ou leur État. Et le vaccinoscepticisme touche évidemment des populations bien différentes selon les pays ou les régions concernées. Et il est intimement lié justement au contexte social et politique des territoires touchés par ces épidémies de rougeole.
Alors, est-ce que ça veut dire que, compte tenu de cette augmentation, on est dans une situation où effectivement, eh bien, les mouvements anti-vaccins sont en train de percer dans le monde? En tout cas, ils ont toujours été là, mais ils sont de plus en plus forts. Et comment le comprendre?
Tout est différent selon les contextes étudiés. Là, on peut parler justement de ce qui se passe actuellement à New York, où il y a une épidémie de rougeole très importante dans une communauté juive orthodoxe. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées dans cette communauté-là, ce qui a permis la réintroduction de cette maladie. Et ce n'est pas forcément pour des raisons seulement religieuses, je dirais. Cette épidémie a été importée d'Israël, notamment de Jérusalem, où elle était très importante à l'automne dernier, jusqu'aux États-Unis. Et en fait, on sait que cette épidémie s'est diffusée dans cette population qui vit dans l'entre-soi, en fait. Hein. C'est la vraie problématique des épidémies de rougeole, c'est quand elles arrivent dans des poche de population pas assez vaccinée, où elle peut se répandre plus aisément. Et ce qu'on a appris récemment, c'est qu'il y avait eu des campagnes de désinformation auprès de cette population juive orthodoxe à New York.
On reviendra sur ce cas particulier de New York pour évoquer évidemment la question de l'obligation vaccinale. Faut-il ou pas obliger les gens à se faire vacciner? François Salvadori, est-ce que aujourd'hui on peut dire que ce mouvement anti-vaccinal, il est global? Ou est-ce que quand même il faut regarder un petit peu les choses au cas par cas, continent par continent, pays par pays? Ou est-ce que, en première approximation en tout cas, c'est un phénomène global, François Salvadori?
Alors, c'est sans doute un phénomène global, parce qu'enfin, on y reviendra aussi, mais évidemment, Internet a un énorme rôle à jouer. Mais d'abord, sur la rougeole, je voudrais quand même dire que les enfants, surtout, meurent de la rougeole actuellement dans le monde parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin.
Y compris en France, d'ailleurs.
Parce qu'ils n'ont pas accès pour des raisons sanitaires.
D'accord. Voilà. Pardon.
Je pense qu'il faut... C'est vrai qu'on a fait un focus sur la France, le Costa Rica, etc. Ce sont des cas très particuliers, New York, etc. Mais d'abord, au point de vue quantitatif, beaucoup trop d'enfants n'ont pas accès au ROR, au vaccin combiné, parce qu'ils habitent dans des états fragiles, parce qu'ils sont réfugiés, déplacés, dans des pays pauvres, etc. Donc,
et lorsqu'on regarde, par exemple, lorsqu'on regarde justement le classement, le trio de tête, si je puis dire, triste trio des pays où la recrudescence est la plus forte, on a en 1 l'Ukraine, 35 000 cas, un peu plus de 35 000 cas recensés, c'est une explosion parce qu'il y en avait, je crois, 30 000 de moins l'année précédente, les Philippines.
Avec 30 000 cas de plus en Ukraine.
Voilà, Philippines, 13 000 cas supplémentaires, Brésil, plus de 10 000 cas ont été recensés alors qu'aucun n'avait été détecté l'année précédente. Pourquoi ces pays en particulier? Que vous inspire justement ce trio-là?
Alors, en Ukraine, je crois qu'il y a à la fois la juxtaposition d'un problème d'infrastructure de santé, de pénurie de vaccins, donc il y a quand même un problème d'organisation du système global de santé en Ukraine, un pays quand même qui a du mal à s'en sortir, à émerger de suite à la chute du mur, on va dire, c'est très long pour eux. Et il y a aussi maintenant en Ukraine, on le sait, ça a été montré maintenant, l'accès à ces mouvements globaux dont vous vouliez parler, d'anti-vaccination. Donc en fait, il y a à la fois un problème sanitaire de pays pauvres, on pourrait dire, et un problème de pays riches, qui est cette diffusion de rumeurs sur le danger, le risque de stérilité, le risque d'autisme, tout ça, tous ces rumeurs.
Lucie Guimier, que vous inspire justement ce trio que je viens d'évoquer? Et est-ce qu'au-delà de ce trio, on peut évaluer, établir au fond des profils sociaux, économiques, culturels, politiques, de pays qui seraient plus propices justement à cette recrudescence?
Oui, alors d'une part, concernant ce trio, sur les Philippines, ce qui est très intéressant à étudier, c'est qu'il y a eu... une campagne de vaccination il y a quelques années qui s'est soldée par d'importants effets collatéraux. Donc c'était une campagne de vaccination contre la dengue qui a ensuite jeté le discrédit sur tous les autres vaccins. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse des couvertures vaccinales et une recrudescence de maladies comme la rougeole. Et ensuite, sur le Brésil, je pense notamment à la situation du Venezuela, qui n'avait pas connu de cas de rougeole jusqu'à la situation chaotique que connaît le pays aujourd'hui et qui, du coup, est réimportateur de cas de rougeole en Amérique latine. Ensuite, sur le profil général des vaccinosceptiques, En dehors de toutes ces considérations territoriales ou géopolitiques, je dirais qu'on a trois grands profils distincts. D'une part, on a des courants spirituels de type New Age, anthroposophie, c'est une para-religion fondée par l'Autrichien Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Ensuite, on a des fondamentalistes religieux de tous bords. On a parlé de la communauté juive orthodoxe, mais en France, on a eu aussi des cas chez des traditionnalistes catholiques. Et enfin, la mouvance conspirationniste qui connaît un élan important de nos jours.
On va revenir sur ces différents arguments au fond des anti-vaccinaux, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu François Salvadori sur le cas de la rougeole, parce que l'OMS s'était fixé l'objectif tout simplement d'éliminer la rougeole et la rubéole d'ailleurs, dans au moins 5 des 6 régions où elle sévit. Est-ce que compte tenu de cette recrudescence globale dont on parle, on peut dire qu'aujourd'hui cet objectif, en tout cas à moyen terme, n'est pas réalisable? On voit bien là, sur les dernières années, entre 2000 et 2016, vous l'avez dit, on a évité 20 millions de décès. Très bien, le nombre de décès est passé sous la barre des 100 000, sauf que depuis, ça remonte. Est-ce que finalement, on n'est pas arrivé à un seuil en dessous duquel il sera très difficile, voire carrément impossible de passer? Est-ce qu'on peut encore améliorer la couverture vaccinale sur la rougeole?
Alors, on peut le faire. Ouais. Le cas de la variole l'a montré. Malheureusement, le cas est unique pour le moment d'éradication de la maladie.
Il n'y en a pas d'autres.
Alors, il y en a une autre qui est presque éradiquée. C'est la polio, puisque en fait, en 2018, il y a 33 cas. Donc en fait, 33 cas à la surface du monde, on peut dire qu'on est tout près de l'éradication. Mais ça fait 20 ans qu'on est tout... Enfin, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que l'OMS attend l'éradication de la polio. Pour la rougeole, c'est possible. C'est une maladie purement humaine. Elle regroupe tous les critères qui font qu'une maladie est éradicable. Le vaccin est fiable. Le vaccin est très peu cher. Il est suffisamment bien distribué. Il pourrait l'être, en tout cas. Donc en fait, c'est maintenant des résistances géopolitiques, spirituelles... Finalement, c'est un problème d'information aussi. Et c'est faisable. Pour moi, c'est faisable. J'ai encore espoir. Vous voyez, au Costa Rica, une vraie politique de vaccination globale a permis d'éliminer cette maladie. Et vous avez vu le cas emblématique d'une famille française qui la rapporte. Cette famille a été mise en quarantaine et finalement, il n'y a pas eu d'épidémie. Donc, évidemment, les moyens sont coercitifs, d'une certaine façon. Les moyens sont difficiles à mettre en œuvre, mais... Avec une politique volontariste, c'est possible, je pense.
Oui, c'est un cas, évidemment, que vous évoquez dans votre livre. François Salvadori, est-ce qu'on peut essayer de faire une petite typologie des arguments des anti-vaccinaux?
Alors, on a regardé, nous, depuis sur le temps long, et en fait, on se rend compte que les arguments, on peut les classer en 4 grandes catégories, pour faire très simple. Les arguments religieux, et en fait, les religions sont assez ambivalentes sur foi, mais ça peut être des arguments forts, en tout cas mis en avant comme tels. La deuxième catégorie, c'est les gens, et ça c'est très très fréquent actuellement, c'est l'appel à la nature, c'est une confiance immodérée dans la nature, en pensant que de toute façon la nature fait bien les choses et pourvoir à tout. La troisième façon d'aborder aussi, la troisième façon de considérer la vaccination, c'est d'inventer une espèce d'alterscience ou de s'imaginer que finalement les scientifiques n'ont pas... à la fois n'ont rien découvert, mais aussi ont finalement des armes qu'on peut réutiliser à sa sauce pour démonter les vaccins. Donc c'est les hypothèses et les arguments alterscientifiques, ou qu'on peut dire comme ça. Et puis enfin, tous les arguments liés à la politique, donc les rapports du citoyen avec l'État, surtout quand l'État oblige à la vaccination.
Il y a un argument qui est très fort qu'on retrouve chez nombre d'anti-vaccinaux, c'est celui de la critique à l'égard des industries pharmaceutiques. Alors on les appelle Big Pharma pour parler de l'industrie pharmaceutique en général, mais parfois il peut y avoir une connotation un peu péjorative, Lucie Guimier, à l'égard de ces industries pharmaceutiques, voire carrément même peut-être une vision une teinte un petit peu complotiste dans tout ça, avec cette idée qu'au fond, les grands industriels profiteraient de leur situation pour produire et vendre des vaccins, pour se faire tout simplement des bénéfices. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une forme de responsabilité, je vais essayer de voir aussi, avoir une vision un peu critique de la chose, une forme de responsabilité des industriels dans cette défiance anti-vaccin? En tout cas, jusqu'où est-ce qu'on peut dire qu'ils portent une part de responsabilité aussi?
Oui, effectivement, cet argument-là, c'est l'un des arguments les plus utilisés par les anti-vaccins. Et il s'appuie aussi sur des scandales, des affaires sanitaires qu'il y a pu avoir par le passé. En France, on a pléthore d'exemples. Et moi, quand j'ai fait mon enquête et que je questionnais les personnes qui me disaient qu'elles refusaient de se faire vacciner, cet argument-là revenait souvent avec le scandale de tel médicament.
Oui, on l'avait beaucoup vu dans la campagne de vaccination pour le H1N1.
Oui, ouais. Alors
c'est quelque chose qui était très fort à ce moment-là.
La mauvaise gestion de cette campagne de vaccination a fait beaucoup de mal à la vaccination, à la couverture vaccinale en France. Ça revient très souvent, et ce qui revient aussi régulièrement, c'est la peur de la collusion entre ces industriels et l'État. D'où cet autre argument de défense des libertés individuelles et de refus de l'intrusion de l'État et des laboratoires pharmaceutiques dans la vie privée des individus qui se donnent le choix de ne pas se vacciner.
François Salvadori, même question. Cette responsabilité peut-être de l'industrie pharmaceutique. Dans votre livre, vous posez la question de savoir si les vaccins tiennent une place particulière dans l'économie du médicament. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'effectivement, peut-être, les industriels, la Big Pharma, portent une responsabilité dans cette défiance globale vis-à-vis des vaccins?
Alors évidemment, pendant longtemps, les vaccins n'étaient pas un problème industriel. Donc quand les citoyens étaient contre les vaccins, ils étaient plutôt contre l'État qui leur imposait. Mmh. Et puis petit à petit, il y a eu en effet ce qu'on peut considérer comme une collusion, mais en fait des liens de plus en plus étroits entre un État qui oblige et puis des industries qui fabriquent. Et maintenant, c'est l'ensemble enfin des deux qui est mis sous le terme de Big Pharma. Mais bon, c'est un marché, évidemment, on ne peut pas le nier. Il faut surtout pas nier que ce marché des médicaments rapporte de l'argent. Ce serait contre-productif de le dire.
Et pardon, le marché des vaccins.
13%.
Et le marché des vaccins. On a une idée de ce que représente le marché des vaccins?
Alors, en milliards, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais c'est à peu près actuellement entre 13 et 15% des bénéfices totaux de l'industrie pharmaceutique,
d'accord,
ce qui n'est pas négligeable. Mmh. Et semble-t-il, c'est en augmentation, puisqu'on pense que dans les 10 à 15 ans à venir, on va atteindre 20%, voire les dépasser. Parce que les vaccins sont des produits de plus en plus techniques, qui demandent des études très très longues avant de mise sur le marché. Bon, peut-être aussi dû au fait qu'il y a cette concentration actuellement sur à peu près quatre grands labos, Sanofi, Pfizer, Merck et GSK, qui à eux seuls remportent à peu près 65% des bénéfices du marché vaccinal. Mais il y a une petite évolution parce que s'ils ont ces bénéfices qui sont loin d'être négligeables, évidemment, c'est quand même un petit pourcentage, mais on ne peut pas dire que c'est rien. C'est 50% seulement des doses vendues. Ça veut dire qu'il y a en fait une tendance qui va s'accentuer, à mon avis, à un désir d'indépendance de certains pays en voie de développement qui vont fabriquer et qui fabriquent de plus en plus leurs propres vaccins. Avec quelques incidents, malheureusement, et avec une résistance sur, en particulier, ils butent sur les brevets qui ont été déposés par les quatre grandes entreprises, enfin même quelques autres, sur les vaccins multivalents. Très, très techniques et très difficiles à surveiller.
Mais est-ce que ça veut dire que pour lutter justement contre ces mouvements anti-vaccins, il faut aller, je vous poserai la même question Lucie Guimier, il faut aller vers plus au fond il faut que les États, d'une certaine manière, prennent davantage le contrôle de cette économie particulière qui est celle des vaccins. Est-ce que, par exemple, il faut qu'on fasse ça dans des laboratoires publics, il faut mieux encadrer, par exemple, les prix des vaccins? Est-ce qu'il faut aller vers ça et est-ce qu'on va vers ça, François Salvadori?
Alors, on s'en éloigne complètement puisqu'il n'y a plus aucun laboratoire public. Je crois que le dernier a été en Norvège, enfin quelque part dans un pays scandinave en tout cas. Il y a la difficulté de... Enfin, le risque pour une grosse entreprise, pour une petite entreprise justement, ce serait de devoir indemniser des malades. Et donc en fait, le risque, les sommes extraordinaires qui ont été obtenues et demandées par certains procès, aux États-Unis en particulier, ont conduit à former en 1988 un énorme programme qui s'appelle le Vaccine Injury Compensation Programme, qui permet justement d'indemniser les malades. Et ça, c'était une volonté de l'État américain, en fait, pour pouvoir payer. Sinon, je trouve que les États, moi, ont une vraie responsabilité, au moins pour faire des stocks, pour éviter les pénuries. Ça, pour moi, c'est un vrai enjeu.
Qu'ils assument ?
qui n'assument pas bien. Ouais. En France, en tout cas, non.
Lucie Guimier.
En Angleterre, il y a un petit peu mieux, mais pas en France.
Lucie Guimier.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Madame Salvadori. Je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si on avait un laboratoire pharmaceutique qui était nationalisé, est-ce que la population accepterait plus aisément les vaccins. Je ne suis pas sûre, parce qu'à mon avis, la défiance se déplacerait vers l'État et non plus vers le laboratoire pharmaceutique. Ensuite, vous avez parlé de la question du coût, et je ne suis pas sûre non plus que ce soit un argument aujourd'hui opposable, puisque les vaccinations obligatoires en France sont prises en charge quasiment à 100%, et c'est pas une problématique que se pose la population en général.
Alors, concernant le vaccin contre la rougeole, les doutes et la suspicion sont aggravés il y a une vingtaine d'années maintenant, lorsqu'en 1998, la revue The Lancet publie une étude d'Andrew Wakefield qui suggérait qu'il existerait un lien entre le vaccin et des troubles autistiques. On va retrouver Brian Deer, qui est journaliste d'investigation au Sunday Times. Il a réalisé une enquête au long cours sur Andrew Wakefield, donc cet ancien docteur, aujourd'hui radié de l'Ordre des médecins britanniques et figure emblématique des mouvements anti-vaccins. Il va nous expliquer comment Andrew Wakefield a monté une énorme fraude scientifique qui a secoué le Royaume-Uni pour prouver un pseudo-lien entre le vaccin rougeole au rayon rubéole et l'autisme. C'est une rumeur qui d'ailleurs court encore. Brian Deer est au micro de Maider Gérard.
Andrew Wakefield was back in the 1990s a fairly irrelevant character. He was.
Dans les années 90, personne n'avait entendu parler de Andrew Wakefield. Il travaillait sur le syndrome de l'intestin irritable dans un laboratoire de gastro-entérologie. C'est là qu'il a été contacté par un bureau d'avocats. Il voulait qu'il établisse un lien entre le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et les problèmes de santé de certains enfants. Andrew Wakefield est devenu très célèbre quand il a publié un article de 5 pages dans une revue médicale extrêmement importante, The Lancet, basée à Londres. Dans ce texte, il liait le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et ce qu'il appelait autisme régressif chez l'enfant. Selon lui, ce vaccin causait de nombreux problèmes de santé chez les enfants. Mais cet article n'était qu'un début.
Quand Wakefield a publié son article, est-ce qu'il y a eu des doutes sur sa véracité ?
Pas vraiment. Le monde médical a protesté parce que son échantillon ne comportait que 12 enfants et qu'il ne les comparait pas avec des enfants bien portants. Les médecins n'aimaient pas le fait qu'ils critiquent les vaccins. Plus tard, ils ont admis que toute cette publicité négative aurait pu être évitée, que les médias n'auraient pas dû en parler autant, surtout que seulement 12 enfants étaient concernés. L'article racontait que plusieurs parents s'étaient rendus dans un hôpital à Londres avec un enfant présentant un retard de développement. Une forme d'autisme pour la plupart. Or, c'était un service dédié aux maladies intestinales. Deux parents sur trois, soit 8 sur 12, ont déclaré « Docteur, j'ai fait vacciner mon enfant et, 2 semaines plus tard à peine, il présente les premiers signes de l'autisme. » Si cela avait été vrai, on aurait eu là la première révélation mondiale des effets néfastes des vaccins sur la santé des enfants. Les médecins de cet hôpital auraient été applaudis pour leur perspicacité. Si l'article avait dit la vérité, l'impact aurait été immense. Mais il mentait. Les parents en question faisaient partie du lot habituel de parents d'un hôpital londonien. Les médecins sur place ont eu droit à la même histoire plusieurs fois, en l'espace d'environ 6 mois, de la fin 1996 jusqu'au début 1997.
Quand est-ce qu'on a compris que tout était faux ?
5 ans plus tard, en février 2004, quand j'ai publié mon enquête dans le Sunday Times. Jusque-là, Andrew Wakefield était critiqué pour ses positions anti-vaccins, mais personne n'avait vraiment analysé son article, ni même regardé comment il avait conduit ses recherches.
Donc pendant 5 ans, au Royaume-Uni, l'idée s'est répandue qu'il y avait un lien entre le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et l'autisme.
Oui, la controverse était immense. On n'avait pas vu cela depuis les débuts du sida. La panique était générale. Le taux de vaccination a dégringolé. Pendant les années où il faisait la promotion de son article, les épidémies de rougeole ont sévi dans toute la Grande-Bretagne.
Lorsque vous avez mené cette enquête, vous avez révélé une manipulation scientifique, mais aussi qu'il y avait des conflits d'intérêts. Quels étaient ces intérêts ?
Laissez-moi vous donner la chronologie des événements. C'est mon enquête qui a conduit au retrait de son article. Tout est venu du travail journalistique, rien du monde médical. Jusqu'au jour où nous avons enfin obtenu que Wakefield soit auditionné par sa hiérarchie. Et là, ce que j'avais écrit dans le Sunday Times a été confirmé. Dans mon enquête, en effet, j'ai prouvé qu'il avait été payé par un cabinet d'avocats pour mener sa recherche. Les enfants de son échantillon et leurs parents n'étaient pas venus à l'hôpital par hasard. L'article du Lancet comportait un trucage en trois étapes. Premièrement, les 12 familles avaient été conduites à cet hôpital par Wakefield lui-même, qui allait consigner leurs allégations dans la recherche qu'il était en train de mener. Deuxièmement, ces enfants ne présentaient rien de particulier, mais il avait besoin de rapporter du matériel à l'avocat qui le rémunérait. Alors, il a eu l'idée de dire que ces enfants avaient une nouvelle maladie intestinale. En réalité, cette maladie n'existait pas. Wakefield a pris les résultats normaux, typiques de n'importe quel groupe de patients, et il les a décrits comme étant une nouvelle maladie intestinale, toujours pour prouver le lien entre le vaccin et l'autisme. Troisième trucage, il a modifié les dossiers médicaux des enfants pour faire apparaître ce qu'il appelait un nouveau syndrome et qu'il corresponde à ce que voulait l'avocat qui allait lancer une nouvelle procédure contre le vaccin. Nous avons rendu ces manigances publiques. Nous avons aussi prouvé qu'il avait signé un contrat avec son cabinet d'avocats et qu'il avait personnellement toutes sortes de projets commerciaux, dont son propre vaccin contre la rougeole. Il avait mené la campagne contre le vaccin de la rougeole, la rubéole et les oreillons, qui contient trois vaccins en un seul, et expliqué aux parents qu'il serait préférable d'administrer aux enfants un vaccin par maladie. 8 mois avant qu'il ne publie son article, il avait déposé son propre brevet pour un vaccin contre la rougeole.
Aujourd'hui, Wakefield n'a plus le droit d'exercer au Royaume-Uni et vit aux États-Unis. Quelle est son influence là-bas ?
L'influence de Wakefield aux États-Unis est colossale. Après la Grande-Bretagne, c'est là-bas qu'il a fait campagne, en exportant ses mensonges. Il lui était interdit d'exercer la médecine où que ce soit ou de faire de la recherche, car il était condamné pour fraude, malhonnêteté, maltraitance sur enfants et manque d'éthique. Il ne sera plus jamais autorisé à travailler comme médecin ou comme chercheur. Ces derniers temps, il raconte qu'il est réalisateur de films.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà, Brian Deer, depuis Londres, journaliste d'investigation au Sunday Times. Il était au micro de Maïder Gérard. Lucie Guimier, réaction, on voit cette énorme fraude scientifique, finalement, qui a causé beaucoup de tort et qui a considérablement renforcé les mouvements anti-vaccinaux dans le monde.
Oui, et cette fraude scientifique a eu énormément d'impact aux États-Unis. Et donc on peut reparler un petit peu de cette épidémie de rougeole qui se passe actuellement dans la communauté ultra-orthodoxe juive de Brooklyn. Ça m'amène plusieurs commentaires. D'une part, c'est qu'on sait que depuis les années 2000, la région OMS des Amériques était la seule à avoir réussi à éliminer la rougeole, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc on voit bien que la lutte contre cette maladie doit se faire dans une coalition internationale. Mmh. Aucun pays ne peut lutter seul et isolément contre cette maladie. Et donc cette épidémie a été importée d'Israël. D'autre part, le second commentaire, c'est que cette épidémie a été aussi favorisée par une propagande. Donc il y a eu un manuel de propagande anti-vaccin destiné à la communauté juive orthodoxe qui a été diffusé et qui mentionnait que les vaccins contiendraient de l'ADN de singes, de rats et de porcs et qui rendrait les vaccins incompatibles avec les principes cachers. Ce manuel a été signé par plusieurs rabbins et cette propagande a été faite auprès de cette communauté parce qu'elle était aussi réceptive à ce discours-là, notamment par le rejet d'une immunisation artificielle et la volonté de ne pas contrarier la nature. Le dernier point que je voudrais mentionner, ce qui est très intéressant, c'est le fait que Bill de Blasio a ordonné que les habitants non vaccinés des 4 zones des quartiers de Williamsburg qui étaient touchés soient vaccinés contre la rougeole sous peine de poursuite pénale et d'une amende. Ce qui est très intéressant, c'est que j'aurais aimé voir si cet homme politique, s'il avait été républicain, est-ce qu'il aurait pris cette même décision. Je pense que d'un point de vue d'un politique démocrate, on a une vision de santé publique beaucoup plus démocratique et disons participative. Si on avait eu un républicain, je ne suis pas sûre qu'il aurait oser aller contre le principe des libertés individuelles de ses habitants.
Bah, on va revenir dans un court instant justement pour voir peut-être la différence entre le camp démocrate et le camp républicain vis-à-vis des politiques vaccinales. Mais François Salvadori, réaction à cet énorme scandale Wakefield.
Écoutez, on peut ne peut que tirer son chapeau à Brian Field parce qu'en effet, je pense que sans son enquête, il n'est pas sûr que le Lancet aurait rétracté cet article. Sur cet aspect, franchement, cette revue porte une grande responsabilité. la communauté scientifique également, je pense. Ce qui est très étonnant, c'est qu'une grande partie des co-auteurs, parce que je crois qu'ils étaient 12 à signer ce papier, se sont retirés quand même progressivement et assez vite. Et ils se sont retrouvés deux, enfin trois, puis deux. Et ça, ça n'a même pas suffi pour que Lancet, enfin le directeur de l'époque, ait le courage de regarder de près et de se poser une question, de se regarder dans le miroir le matin. Peut-être n'a-t-il pas pesé les conséquences, mais c'est vraiment terrible parce que... Enfin, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que l'article lui-même était très habilement écrit, puisqu'il ne faisait que suggérer. À aucun moment, l'article ne dit clairement que la vaccination donne le trouble observé, l'entérocolite autistique décrite. Mais c'est juste après que M. Quayfield a réussi à organiser une conférence de presse à l'hôpital tout à fait bien comme il faut en Angleterre, le Royal Hospital de Londres, avec l'aide de son hôpital et du service com de l'hôpital, une énorme conférence de presse au cours de laquelle il a vraiment établi et dit clairement que là, il y avait plus, c'était pas une suggestion, c'était un lien qui était proclamé. Et en même temps, il a distribué des dizaines de kits à des journalistes généralistes qui après ont fait l'information entre guillemets, une information balancée et qui se voulait équilibrer en mettant bien en avant ce risque.
Ce qui est effrayant, c'est quand même que le reste. En vous entendant, je me dis que ces mouvements anti-vaccins sont extrêmement bien organisés en réalité.
Exactement, très très bien organisés. Et là, on a vraiment une décision pratiquement de Wakefield qui a tout de suite vu où il allait arriver et puis tout ce qui était prévu derrière, les brevets pour lui, l'enrichissement personnel, mais aussi faire avancer la cause, entre guillemets, parce que je pense que lui-même est persuadé de cette toxicité.
Vous disiez tout à l'heure, Lucie Guimier, qu'effectivement la ville de New York a fait le choix très récemment d'ordonner, c'était au début du mois, que les habitants de certains quartiers se fassent vacciner, et notamment le quartier de Williamsburg, où se trouve une communauté de juifs orthodoxes particulièrement opposés au vaccin. Écoutez.
We're here in Williamsburg today to deal with a very serious situation.
Nous sommes ici à Williamsburg aujourd'hui afin de parler d'une situation très grave. Il s'agit ici de l'épicentre d'une épidémie de rougeole qui est très très inquiétante. Aujourd'hui, nous déclarons l'état d'urgence sanitaire avec un effet immédiat. Nous rendons obligatoire le vaccin pour les gens vivant dans la zone infectée. Le département de la santé traquera les contrevenants et condamnera toute personne non vaccinée. La seule façon de stopper cette épidémie est de s'assurer que ceux qui n'ont jamais été vaccinés jusqu'alors le seront.
Alors, on va venir dans un instant à la question de l'obligation vaccinale, mais la première question que je souhaiterais vous poser, François Salvadori, parce que vous avez fait tout un travail, il y a vraiment des chapitres très intéressants sur la question religieuse, l'argument religieux dans ces mouvements anti-vaccins. Si on regarde par exemple le cas de New York, est-ce que effectivement vous diriez que c'est le facteur religieux confessionnel qui joue sur la défiance au vaccin? Est-ce que c'est aussi autre chose? Et puis on va regarder de façon plus générale comment précisément les arguments religieux peuvent jouer, et peut-être en fonction des différentes confessions. François Salvadori, dans le cas de New York.
Alors dans le cas de New York, il y a ces noyaux de familles qui mettent en avant des arguments religieux, mais qui ne sont pas uniques, comme l'a dit Lucie Guimier tout à l'heure. Dans le même argumentaire, les familles vont parler aussi de poison, vont parler aussi de viande de porc, d'ADN, etc. Et ça, je l'ai remarqué à chaque fois, et y compris dans le cas du Pakistan, qui a été bien étudié, puisque c'est un endroit dans le monde où on a tué des dizaines de vaccinateurs depuis une dizaine d'années. Là, si on interroge les familles et même les mollahs, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que l'argument religieux, et que finalement, dans les textes sacrés... évidemment rien n'était prévu pour la vaccination, mais aussi c'est parfois une espèce de, on met en avant cet argument là mais qui cache autre chose.
Il n'est jamais seul,
il n'est jamais seul, ouais. Voilà, exactement. Et d'ailleurs il n'y a qu'à regarder un des pays du monde quand même le plus connu pour son engagement religieux, qui est l'Arabie Saoudite. C'est aussi un pays où les gens ne voient pas le problème avec la religion. La vaccination est très très contrainte, comme beaucoup de choses dans ce pays, et ça ne pose pas de problème. Donc c'est
pareil pour l'Iran, d'ailleurs, façon, vous dites dans votre livre. Pareil pour l'Iran,
idem où les couvertures vaccinales sont plutôt bonnes. Très volontariste, ouais, pour vacciner les populations. Et donc c'est assez paradoxal de voir que, par exemple, de nombreux pays, États américains, continuent de mettre cette possibilité pour les parents les parents peuvent exempter leurs enfants de vaccination à l'entrée à l'école sur des raisons religieuses. ou personnel. Donc tout, finalement, tout ça cache un petit peu des opinions diverses et variées que les gens peuvent appeler religion, mais qui peuvent être tout simplement opinions personnelles.
Lucie Guimier, vous avez constaté la même chose, l'argument religieux n'est jamais seul, il est toujours accompagné d'autre chose, d'un autre argument.
Non, oui, évidemment, il se nourrit du contexte social, médiatique, politique, de chaque région qu'on va étudier lorsqu'on étudie le refus vaccinal.
Mmh. Alors si on regarde du côté américain précisément, si on regarde notre géographie, toujours aux États-Unis, en Californie par exemple, il y a quelques années, les médecins californiens avaient tiré la sonnette d'alarme concernant précisément, une fois encore, les recrudescences de rougeole, alors même que précisément l'État avait été pendant des années très, très bon sur cette question-là. On avait quasiment même éradiqué la rougeole grâce précisément à une très bonne couverture vaccinale. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Est-ce que c'est l'affaire Wakefield? Est-ce que c'est autre chose? Peut-être un contexte politique local plus précis encore?
Alors je dirais qu'à l'échelle globale, aux États-Unis, l'étude de Wakefield a été popularisée à partir de 2007. Lorsqu'une actrice, Jenny McCarthy, est passée dans une émission d'Oprah Winfrey en disant que son enfant, elle pensait que son enfant était un enfant indigo, donc c'est un concept issu du courant New Age, et qu'elle s'était rendue compte qu'il était devenu en fait autiste après la vaccination ROR. Elle a popularisé cette question-là, elle a monté ensuite à tout un mouvement anti-vaccin, et étant la compagne de Jim Carrey à cette époque-là, ça a eu énormément de retentissement. Ils ont fait des grandes manifestations, etc. Et c'est vraiment à partir de cette année-là qu'on a eu une publicisation en fait de cette problématique Wakefield, ROR, autisme. Et ensuite, il y a eu une épidémie de rougeole qui s'est déclarée en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, dans un parc Disneyland, et qui s'est disséminée, et notamment parmi les territoires les plus riches de Californie. C'est ensuite que le gouverneur démocrate Jerry Brown a décidé de resserrer l'étau sur les parents anti-vaccins en ne permettant plus la scolarisation d'enfants non vaccinés pour des raisons philosophiques ou religieuses, ce que permettent pratiquement tous les États aux États-Unis actuellement.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, à peu près tous les États obligent la vaccination, sauf qu'à peu près tous aussi vous permettent d'avoir une dérogation pour des raisons religieuses ou pour des raisons philosophiques. Voilà. Je mets là des guillemets. François Salvadori d'ailleurs explique ça très très bien dans son ouvrage, ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez avancer à peu près n'importe quel motif pour ne pas vacciner vos enfants. François Salvadori, réaction justement, parce qu'il y a effectivement ce mouvement qu'on voit là, mais il y a aussi derrière peut-être une forme de politisation, François Salvadori. Je me souviens, au moment de la campagne américaine, il y a eu des échanges assez véhéments entre Donald Trump et Hillary Clinton à l'époque. Donald Trump qui considérait que d'abord il fallait pas obliger les gens, et puis même il avait même remis en cause l'efficacité des vaccins, alors qu'Hillary Clinton, elle, poussait vers la vaccination. Donc on voit que cette question-là, elle s'est aussi politisée au fur et à mesure, François Salvadori.
Tout à fait, oui. On peut même faire un parallèle presque dans le cas des États-Unis entre le créationnisme d'une part et la théorie de l'évolution d'autre part. Vous voyez, comme le camp démocrate-républicain met une barrière entre les créationnistes d'un côté et les évolutionnistes de l'autre, et entre les pros et les anti-vaccins. C'est une caricature, mais c'est largement ça. C'est vrai que Trump a exprimé plusieurs fois son scepticisme vis-à-vis des vaccins. Il a en particulier embauché Robert Kennedy, qui est un avocat de diverses causes écologiques au sens large, qui était aussi, Robert Kennedy, très très impliqué dans le mouvement de Jim Carrey dont parlait Lucie Guimier juste à l'instant. Jim Carrey avait lancé une grande manifestation en 2015, je crois, dans lesquelles les gens portaient des t-shirts verts écrits « Green our vaccines ». Donc en fait là, c'était l'argument écolo qui marchait très très bien dans la Silicon Valley, à Hollywood, etc. Et Robert Kennedy était très très... Robert Kennedy, donc un avocat de la famille Kennedy, actuellement très très enclin à enfoncer les vaccins, pour dire vite, est très ami avec Trump, qui l'a mis à la tête d'une task force contre les vaccins, vous voyez. Donc on trouve cette, surtout aux États-Unis, vraiment des milieux très riches et très éduqués qui considèrent que les maladies sont bénignes, voire bénéfiques, qui ont une très très grande confiance en la nature et qui surtout refusent de se voir imposer un acte dont ils pensent être eux-mêmes seuls responsables.
Lucie Guimier, Lucie Guimier, est-ce qu'on peut situer politiquement les mouvements anti-vaccins aux États-Unis? Parce qu'on voit, il y a beaucoup d'arguments, on a des choses, on sent bien qu'ils sont très clairement du côté conservateur, on sent qu'il y a des arguments qui sont pas très très loin de ceux qui peuvent être parfois convoqués par les mouvements pro-life, par exemple. Et puis, il y a aussi tout le versant un peu naturaliste, écologiste, qu'on aurait plutôt envie de classer de l'autre côté, plutôt qu'en démocrate. Alors, est-ce qu'on peut, si là, je vous demandais de situer politiquement, sur l'échiquier politique, les mouvements anti-vaccins aux États-Unis, qu'est-ce que vous me répondriez?
Alors, bien sûr, je voudrais pas faire de généralisation, mais je peux m'appuyer sur une étude qui est très intéressante, qui a été faite justement après ces débats à partir de 2007. Et donc, en 2009, on savait que les personnalités démocrates et républicaines se déclaraient favorables à la vaccination de manière plutôt homogène, c'est-à-dire à 71%. Et une étude du Pew Research Center a indiqué que l'écart s'était sensiblement creusé en 2014, puisque les démocrates se déclaraient plus favorables à la vaccination qu'avant, à 76%, alors que la confiance avait considérablement chuté dans le camp républicain. On sait par exemple aujourd'hui que l'entourage de Trump est plutôt anti-vaccin. Là, récemment, c'est l'épouse du directeur de communication de la Maison-Blanche qui s'est exprimée sur Twitter en disant que les vaccins étaient dangereux. On sait qu'il y a une nébuleuse autour des républicains qui est plutôt anti-vaccin. Et notamment, là, je pense que le prochain épicentre anti-vaccin américain, ça va vraiment être le Texas, puisque c'est là que s'est implanté Andrew Wakefield. Et que les républicains qui siègent à l'Assemblée législative actuellement essayent d'assouplir les lois sur l'obligation vaccinale.
François Salvadori, sur cette difficulté à situer politiquement ces mouvements, et d'ailleurs on pourrait se demander si je pourrais vous poser la même question sur le contexte européen et même peut-être sur le contexte français en particulier. Est-ce qu'on arrive à situer politiquement ces mouvements-là ici en Europe?
Je pense qu'en Europe c'est beaucoup moins net.
Ouais.
Franchement, je suis d'accord avec Lucie Guimier sur tout ce qu'elle vient de dire, c'est très précis et ça se confirme et ça s'amplifie aux États-Unis. Non, en France, c'est beaucoup moins net. Vraiment, les études sociologiques en France sont quand même assez rares pour le moment. Je dirais que c'est pas complètement abouti. Il semblerait qu'en France, on ait plutôt un profil sociologique middle class, bac plus 2, bac plus 3, et peut-être moins chez les gens vraiment riches et très éduqués. Alors, je ne sais pas si on peut. C'est très difficile de faire un parallèle, mais finalement, les gens qui sont plutôt anti-vax en France actuellement, enfin globalement, c'est très très difficile d'avoir un discours global. Mais c'est assez typiquement des gens, des enseignants du primaire ou du secondaire même, et des infirmières, des gens qui ont, qui pensent pouvoir analyser ce qu'ils lisent sur Internet et se faire eux-mêmes une opinion.
C'est pas des profils qu'on attendrait là, ce que vous venez de me donner, des professeurs, des infirmières.
Non, c'est pas ce qu'on attend. C'est assez étonnant. En tout cas, sur les infirmières, c'est très très net. Hein. On a une grande méfiance au sein de des personnels de différents types de personnel médical. On a une sous-vaccination, par exemple, vis-à-vis de la grippe, chez les infirmières en particulier. 20% se vaccine.
Lucie Guimier, vous vouliez réagir. Après, j'ai une question pour l'une et pour l'autre, parce que compte tenu de ce que vous nous dites là aujourd'hui, la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il faut alors, du coup, obliger les gens à se vacciner? Est-ce que la décision du maire de New York est une bonne décision, compte tenu du fait qu'on le voit aussi, obliger les gens à se vacciner, ça risque de renforcer les mouvements anti-vaccins? Alors, faut-il le faire? Mais Lucie Guimier, vous voulez réagir?
Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et toute la désinformation qu'on peut y trouver, on remarque quand même qu'il y a une actualisation des profils anti-vaccins et vraiment une évolution actuellement qui va de plus en plus toucher des catégories populaires.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment une évolution qu'on remarque actuellement quand même.
Ouais, il y a un effet sociologique d'Internet, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication sur la pertinence de l'obligation vaccinale, Lucie Guimier.
On peut prendre l'exemple du cas français. On a une obligation vaccinale qui a été étendue à 11 vaccins en début d'année dernière.
Il n'y en avait que 3 qui étaient obligatoires, maintenant c'est 11.
Et ce qu'on sait, c'est que sur les premiers résultats qu'on a actuellement, c'est qu'on a eu une augmentation effectivement de la couverture vaccinale qui n'est pas négligeable, qui est je crois de 5 points sur le vaccin hexavalent qu'on fait aux enfants. Donc en tout cas, ça fonctionne, mais ça ne va pas fonctionner auprès des plus résistants qui de toute manière ne vont pas se faire vacciner. Mais en revanche, ça peut fonctionner auprès des hésitants qui ne savent pas trop comment se positionner.
Ça fonctionne ic et nunc, ici et maintenant, François Salvadori, mais est-ce que quand on regarde l'histoire, ça fonctionne aussi bien que ça, l'obligation vaccinale ?
Alors en fait, quand on a entendu avec mon collègue, nous avons travaillé pendant 2 ans sur ce sujet-là, sur 3 siècles, et on a bien vu que dans l'histoire, les oppositions se sont à la fois organisées et durcies quand les obligations ont été décidées par les États. Mmh. Donc on était assez craintifs. Bon, après, il faut regarder pourquoi cette décision a été prise. On était dans un contexte français très particulier, avec à la fois des vaccins obligatoires, 3, diphtérie, tétanos, polio, et beaucoup d'autres, 7, 8, 9, qui étaient seulement recommandés. Donc c'était très très difficile à entendre pour des parents. Comment choisir, étant donné que finalement les maladies les plus présentes, par exemple comme la rougeole, c'était seulement recommandé, et la polio qui n'existe plus, c'est obligatoire. Donc c'était pas facile, c'était pas très logique. Donc il fallait faire quelque chose, puisque même le Conseil d'État avait dit qu'il fallait sortir de cette situation. Donc l'État a pris cette décision, c'était soit on les recommande tous, soit on les oblige tous. Donc d'une certaine façon, cette décision, c'est une prise de responsabilité aussi de l'État, parce qu'il protège des enfants contre leurs parents. On peut voir les choses comme ça. C'est aussi un principe de précaution, parce que si une énorme épidémie de rougeole envahit la France, comme ça pourrait arriver, ça aurait pu leur être très, très fortement reproché. En même temps, ce qu'on a vu, c'est que les parents parfois étaient soulagés. Mais je pense que d'une part, ça ne favorise pas le dialogue. Avec le médecin en particulier, on n'est pas dans un climat de confiance, puisque de toute façon, le médecin va, à la fin de la consultation, va devoir vacciner. Et d'autre part, et je voudrais quand même insister là-dessus, je pense que cette contrainte aurait été beaucoup plus, mieux acceptée si elle était accompagnée d'une vraie politique de santé publique. C'est-à-dire que là, finalement, on fait porter l'obligation par un directeur d'école. Je schématise un peu, mais c'est un peu ça. C'est un peu étonnant de la part d'un État. Comment faire autrement? Eh bien, il faudrait améliorer la santé scolaire, remettre des médecins dans les écoles, ce qui n'existe plus, améliorer la santé publique. Il n'y a plus de médecine du travail, ou très peu. Donc finalement, l'État prend des décisions, mais cette responsabilité, elle n'est pas complètement aboutie. Il n'y a pas de donnant-donnant.
François Salvadori,
ne vérifie pas la pénurie. Il faudrait pouvoir au moins être sûr que la pénurie n'existera plus. On ne peut pas obliger alors qu'il n'y a pas de vaccin disponible.
François Salvadori, je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'histoire, parce que vous racontez, c'est très intéressant dans votre livre, comment naissent au fond les premiers courants, mouvements anti-vaccins, et il se trouve qu'ils émergent du côté de l'Angleterre, vers le milieu du 19e siècle. Pardon, pourquoi là-bas?
En fait, l'Angleterre a été le premier pays à imposer la vaccination, donc en 1853.
Donc c'est un effet direct de l'obligation vaccinale.
Oui, on peut on est obligé de le voir. Enfin, c'est juste après. Et ce qui est drôle aussi, c'est de voir qu'en France, la première ligue qui s'appelle maintenant la LNPV, la Ligue nationale pour la liberté de vaccination, donc la première ligue de patients, enfin de citoyens opposés à la vaccination, en gros, a été fondée en 1954, dans juste l'après obligation du BCG, en réaction à cette obligation par l'État de la vaccination du BCG. Et donc c'est deux ligues très importantes, avec un siècle d'écart, c'est étonnant, que l'Angleterre ait commencé, mais s'est rendu compte beaucoup plus tôt que nous que cette obligation-là, elle n'était pas tenable. Il y a eu des manifestations, il y a eu des exemptions de plus en plus nombreuses, et finalement une levée complète de cette obligation. Mais nous, un siècle après, on l'a mise en place. Elle est restée à 3 vaccins jusqu'à 1er janvier 2018, et maintenant est à 11.
Ce qui est intéressant de regarder aussi, François Salvadori, c'est le chemin qui a été parcouru en un siècle. Et il se trouve que là, pour voir un petit peu comment s'est diffusé justement ces mouvements anti-vaccinaux, il faut aller du côté de l'Amérique du Nord. Ça part de l'Angleterre, et puis ensuite, c'est les États-Unis et le Canada.
Oui,
d'abord, dans un premier temps.
Oui, mais les obligations étaient complètement différentes de l'autre côté de l'Atlantique. On n'était pas dans un régime d'obligation où parfois localement, une ville, un État, etc. Mais il y a eu de grandes, grandes manifestations à chaque fois que certaines villes ou certains États voulaient devenir plus contraignants.
Lucie Guimier.
Presque à chaque fois, on l'a vu.
Lucie Guimier. Ouais, on voit, c'est intéressant, hein, finalement, les mouvements anti-vaccins, ils sont nés historiquement de l'obligation vaccinale.
Oui, de l'obligation vaccinale. Et ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que très souvent, ce sont des médecins qui sont à l'origine de ces mouvements anti-vaccins. Oui. C'est-à-dire que eux-mêmes, en tant que professionnels de santé, rejettent l'intrusion de l'État dans leur exercice auprès de leurs patients.
François Salvadori, si on avance un petit peu dans le temps aussi, ce qui va beaucoup nourrir la défiance à l'égard des vaccins, c'est la colonisation. C'est-à-dire que le fait que les occupants obligent les colonisés à se faire vacciner, ça va produire un très fort mouvement de rejet. Les résistances sont très fortes, les campagnes de vaccination sont vues au fond comme l'un des symboles, en tout cas, de l'asservissement des populations locales.
Oui, tout à fait. Il y a deux exemples qui ont été assez bien étudiés. C'est l'Inde pour l'Empire anglais, et puis l'Algérie pour la France. Finalement, là, il y avait aussi un aspect symbolique, c'est que cette vaccination ancienne, c'était la vaccination antivariolique, elle laissait une marque. Et l'idée que les colons pouvaient comme ça marquer les colonisés était très très mal vécue, souvent associée aussi à des soupçons de stérilisation. Et malheureusement, c'est que ces soupçons de stérilisation se sont pérennisés.
Ah, c'est ce que je voulais vous demander.
Encore en Afrique.
Donc il y a encore aujourd'hui une défiance vaccinale qui est héritée de la colonisation.
Je pense que tout ce qui justement tourne autour de la stérilisation, de ces rumeurs qui courent encore en Afrique sur un vaccin et en fait est là pour nous stériliser, nous éradiquer à la limite, est née à peu près dans ces moments-là. Depuis, elle s'est scientisée, c'est-à-dire que les arguments ont été remaniés. On a utilisé des mauvaises lectures de certains articles qui sur certains malentendus scientifiques, ont rejustifié après coup. Et cette rumeur de stérilisation, d'éradication des populations, malheureusement, perdure.
Merci infiniment à nos deux invités, Lucie Guimier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes géographe et auteur d'une thèse sur les enjeux politiques, géopolitiques du refus vaccinal. Un grand merci également à François Salvadori qui était avec nous en duplex de Dijon. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Et je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître, Antivax, la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours, que vous avez coécrit avec Laurent-Henri Vigneault. C'est paru aux éditions Vendémiaire. Un grand merci à toutes les deux. On poursuivra notre série consacrée aux épidémies demain à 11h. Mais pour l'heure, 11h53, c'est l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous emmenez en Algérie aujourd'hui. La société algérienne est entrée en ébullition. Mais pourquoi ce printemps paraît-il un petit peu en retard sur la saison des printemps arabes, Brice?
Ben en effet, les printemps arabes ont eu lieu il y a 8 ans, en 2011, et bien des observateurs se sont interrogés sur le calme qui régnait alors en Algérie. Tandis qu'éclatait une révolution en Tunisie voisine, que le pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali était renversé en quelques semaines, le calme semblait régner en Algérie, un pays pourtant connu pour des explosions de colère populaire, telles que les émeutes de la fin de 1998 ou les révoltes en Kabylie de 2001. Cette réserve populaire fut généralement attribuée aux souvenirs cuisants laissés dans le pays par la guerre civile des années 1990. Rappelons qu'elle a fait entre 60 000 et 200 000 morts. Depuis lors, les Algériens ont refusé tout changement politique risquant de se traduire par un nouveau bain de sang, question de prudence politique. Comment expliquer alors que depuis le 22 février et l'annonce par Abdelaziz Bouteflika qu'il réclamait un cinquième mandat de président de la République, plusieurs millions d'Algériens soient descendus pacifiquement dans les rues afin d'exiger qu'il retire cette candidature? Bouteflika a 82 ans, sa santé est mauvaise et depuis l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi en 2013, il n'était manifestement plus en état d'exercer ses fonctions. Le peuple algérien est jeune, l'âge médian est de 27 ans, son aspiration à la démocratie est très élevée. Bouteflika a annoncé le 11 mars qu'il renonçait à une présidence qu'il exerce depuis presque 20 ans à présent. Depuis lors, l'Algérie semble engagée dans la voie compliquée d'un changement de régime. Pour Ishak Diwan, professeur à l'Université Columbia et à l'École normale supérieure, c'est paradoxalement le fait que les Algériens ressentent aujourd'hui que leur sécurité est correctement assurée qui explique leur désir de changement politique. Tant que perdurait le traumatisme de la décennie noire, l'aspiration à la sécurité l'emportait sur la demande de liberté. Eh bien, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 60% des Algériens estiment que leur sécurité physique est assurée. Mais les mêmes sondages attestent que l'opinion algérienne avait atteint depuis déjà un ou deux ans le seuil où la perte de confiance envers ses gouvernants atteint le seuil révolutionnaire.
Et puis à côté des causes politiques, ce divorce entre la population et ses dirigeants a des causes économiques. En tout cas, c'est ce que pense Ishak Diwan. Lesquelles ?
Les Algériens ont pris conscience, écrit-il, de la faiblesse économique de leur pays. Et ils l'attribuent à raison au régime politique en place. Après la désastreuse guerre civile entre islamistes et militaires, le pouvoir a misé sur une revitalisation de l'économie par des dépenses publiques toujours plus élevées. Il a pu subventionner la consommation des ménages, tant que le lui ont permis les revenus du pétrole et du gaz. Mais depuis la réélection de Bouteflika en 2014, cette politique clientéliste s'avère insoutenable. Le soutien à la consommation absorbe en effet près du quart du PIB, alors que le prix des hydrocarbures a connu une baisse sensible. En 2016, le gouvernement lui-même l'a reconnu et il a annoncé un programme de libéralisation de l'économie, le nouveau modèle économique. De fait, estime de son côté Rabah Areski, l'économiste en chef de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le pays va devoir faire face à une tâche qu'il appelle herculéenne. Transformer son économie pour répondre aux besoins d'une population qui n'est pas seulement jeune, mais qui croît à nouveau rapidement. Depuis la fin de la décennie noire, l'Algérie, qui a repris confiance en l'avenir, connaît un véritable baby-boom. Selon cet économiste, pour procurer des emplois aux jeunes qui arrivent chaque année plus nombreux sur le marché du travail, le pays devrait dégager une croissance annuelle d'au moins 6%. Or, la croissance algérienne est faible, 1,5% l'an dernier, 2% attendu cette année. L'économie algérienne est devenue entièrement dépendante de la rente pétrolière et gazière. Les exportations d'hydrocarbures représentent 96% du total. Et de fait, le système économique et social est vieilli. Il remonte aux années 60, à l'indépendance, aux illusions tiers-mondistes et socialistes de l'époque. L'État a créé de soi-disant champions nationaux qui survivent sous subventions publiques et entretiennent un personnel pléthorique mais bénéficiant d'avantages sociaux coûteux, tandis qu'une bonne partie de la jeunesse algérienne se heurte à de véritables barrières leur bloquant l'accès à l'économie de marché. Et Diwan prend l'exemple du numérique. La jeunesse algérienne est en phase avec ces technologies nouvelles. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Pratiquement tous les jeunes Algériens disposent aujourd'hui soit d'un smartphone, soit d'un portable. Mais la législation en vigueur bloque certains services, comme PayPal, afin de protéger les banques de cette concurrence. Et la qualité du réseau est insuffisante en Algérie. Un premier pas vers la libéralisation de l'économie serait de favoriser l'économie numérique.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table avec un invité exceptionnel.